l'émission Cinéma mensuel de Nathalie Slaen. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première de Film et moi de l'année 2025. Alors, que vous souhaitez ? Des émotions de cinéma en pagaille, bien sûr, pour que les multiples appels de phare lancés dans nos nuits d'hiver, parfois glacées, continuent à éclairer nos petites existences en émerveillement, questionnement, doute et rire délicat ou aux éclats. Et pour cette première de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui sont venus partager leurs émois de cinéma et nous dire que le cinéma, c'est aussi des métiers passionnants et exigeants. Nous sommes en compagnie d'Eva Osmani, chef monteuse, enseignante en BTS audiovisuel au lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Bonjour Eva et bienvenue.
Bonjour Nathalie.
Et de Yuna Flock, étudiante en première année de BTS audiovisuel au même lycée Léonard de Vinci de Montaigu. Bienvenue Yuna.
Bonjour.
Commençons par mes doux coups de cœur dans l'actualité cinéma de ce début d'année. Deux films documentaires qui dévoilent, chacun à leur façon, les soubresauts politiques de deux époques. Je vous laisse entrer dans l'univers du premier film avec ça.
Je m'appelle Ernest Cole. Je suis né le 21 mars 1940 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dans les années 60, chaque jour, chaque heure, et malgré le danger, j'ai photographié l'apartheid sans m'arrêter.
Le monde entier s'est ému cette semaine des sanglants incidents dont l'Afrique du Sud a été le théâtre.
Dans les regards, les gestes, j'ai essayé de trouver du sens là où il n'y en avait plus. Chroniquer la misère, l'injustice, la cruauté était devenu mon quotidien. Mais exposer la vérité à un prix, cela s'appelle l'exil. Je pensais découvrir un nouveau monde de liberté, d'égalité. De New York au sud des États-Unis, je photographiais ces corps, ces regards, furtivement croisés. Pourtant, une réalité s'est vite imposée. En Afrique du Sud, j'avais peur d'être arrêté. Dans le sud de l'Amérique, j'avais peur d'être tué, mais je n'ai jamais arrêté de photographier. Un seul instant.
Alors ça, c'est le dernier documentaire de l'incontournable Raoul Peck, Ernest Cole, photographe. Raoul Peck, il est réalisateur, scénariste et producteur. Il est né en Haïti et il a 8 ans quand sa famille fuit la dictature de Duvalier pour s'installer au Congo. Mais la situation politique instable pousse la famille à s'installer ensuite à New York. Et Raoul Peck, il poursuit ensuite ses études en France et en Allemagne. Son œuvre, elle est traversée par des questionnements sur l'identité et sur la place des plus fragiles, en adoptant un regard décolonial sur le monde. Alors, dans la géniale série en 4 parties, Exterminez-les tous, qui a été diffusé en 2021, il documente les massacres commis depuis les croisades, les exterminations, au nom de missions salvatrices civilisationnelles, qui, selon lui, ont conduit au racisme systémique encore à l'œuvre dans nos sociétés aujourd'hui. En 2016, son documentaire sur l'écrivain américain James Baldwin, qui s'appelait « I'm not your Negro », est un récit radical parce qu'il n'utilise que les mots mêmes de Baldwin, et il reconstitue le livre que l'écrivain n'a jamais achevé. Donc ce film, I'm Not Your Negro, a été nommé à l'Oscar du meilleur documentaire et il avait remporté le prix du meilleur film documentaire à la Berlinale en 2017. Et voilà que Raoul Peck nous revient aujourd'hui avec Ernest Cole, photographe, pour lequel il a obtenu l'Œil d'or, le prix du meilleur documentaire à Cannes en 2024. Et dans ce film, Raoul Peck, il redonne vie au trop méconnu photographe sud-africain Ernest Cole. Ernest Cole, il a d'abord documenté les atrocités de l'apartheid dans un livre « House of Bondage » qui est paru en 1967. Ensuite, il a quitté l'Afrique du Sud pour les États-Unis où il espérait trouver la liberté. Et quand il est arrivé en Afrique du Sud, aux États-Unis, pardon, il ne peut pas s'empêcher de photographier les laissés pour compte des États-Unis des années 60, en particulier ses congénères noirs, ce qui l'a mis à l'époque au banc du milieu de la photographie, milieu peu enclin à ouvrir les yeux sur les aspects les plus sombres de leur pays et de son racisme systémique. Et Raoul Peck, il redonne voix à cet artiste engagé qui a fini sa vie dans la misère en le faisant parler. Il crée une voix off basée sur les écrits de Cole et il prête sa voix à ce héros exilé et révolté sur des images de l'artiste. La puissance de ce documentaire, elle provient aussi d'un côté thriller sur la trace de 60 000 négatifs d'Ernest Cole retrouvés dans une banque suédoise plusieurs années après sa mort dans la misère. Alors Peck, il met l'accent sur la puissance esthétique et politique des photos d'Ernest Cole. Dans toutes ces images, dans tous ces clichés, un personnage nous regarde et Peck va chercher le récit dans la photo. Il nous dit « Je fais des films pour recréer une mémoire et développer une narration différente de l'histoire académique. » Alors écoutons cette narration pour orienter notre regard autrement. Le film, il est à voir dans notre département au cinéma Le Concorde à Nantes, au cinéma Saint-Paul à Rezé, au cinéma Le Beaulieu à Bouguenay, à la Turballe au cinéma Atlantique et au Connétable à Clisson. Alors, Eva, Yuna, est-ce que vous l'avez vu, Ernest Cole ?
Pour ma part, non, pas du tout. Mais ta description me donne bien envie d'aller le voir.
Eh ben, tant mieux.
Dans un cinéma d'arrêt essai.
Oui, oui, oui. Puis il y en a tellement dans le département 35, je rappelle, le département le plus riche en nombre de cinémas. Et maintenant, continuons notre exploration d'un deuxième documentaire après ça. I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I'm in love, but I'm still sad, I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. Ces jours-ci, un autre documentaire saisissant nous entraîne dans les méandres d'un des scandales les plus retentissants de la Ve République. C'est le film « Personne n'y comprend rien » de Yann Kergoat. Alors ce film, c'est en quelque sorte l'affaire Sarkozy-Kadhafi pour les nuls. C'est extrêmement bien construit avec rigueur et précision. Le film, il retrace l'enquête au long cours des deux journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi et Karl Lask. Et le titre, « Personne n'y comprend rien », c'est une phrase prononcée par Nicolas Sarkozy pour se dédouaner de ses liens avec Kadhafi. Les journalistes, ils l'ont pris au mot. « Pour que nous comprenions mieux ». Et c'est gagné. On nous dévoile les dessous d'une affaire de corruption et de financement de campagne qui s'étale sur 20 ans. Alors, une affaire qui serait au final juste tristement banale s'il n'y avait eu une guerre déclenchée par un président contre la Libye, un attentat et des centaines de morts. On découvre aussi à travers le documentaire la puissance de certains médias prêts à tout et aux pires mensonges pour sauver leurs amis et leurs intérêts politiques. Alors, à l'heure des faits alternatif, utilisé comme outil d'accession au pouvoir, on se dit que déjà à l'époque, ils étaient précurseurs. Alors, ce film, c'est vraiment digne d'un polar et c'est glaçant. C'est surtout d'utilité publique pour tous les citoyens. Les journalistes, ils expliquent qu'ils ne sont pas juges et que ce n'est pas à eux de rendre la justice, qu'ils ont pour seule mission de dévoiler des faits dans la plus pure tradition du journalisme d'investigation, seul capable aujourd'hui de s'affranchir du pouvoir politique. Le procès de ce qu'on appelle l'affaire Sarkozy-Kadhafi s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris le 6 janvier 2025. Et il y a 11 personnes qui sont mises en cause dans cette affaire. Et l'ancien président de la République, il comparaît pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Rien que ça. Le rôle de l'investigation des journalistes de Mediapart a été essentiel pour aboutir à ce procès. Ils ont été attaqués en diffamation plusieurs fois, mais ils n'ont jamais été condamnés. Donc ce documentaire, il est à voir absolument. Il joue au cinéma Le Concorde à Nantes. En ce moment, il sera certainement programmé dans d'autres salles du département. Donc guettez-le et allez le voir pour ne plus vous dire « on n'y comprend rien ». Vous êtes toujours dans Film et moi sur Jet FM 91.2 en compagnie d'Eva Osmani et de Yuna Flock. Plongeons maintenant dans un tout autre univers que vous reconnaîtrez peut-être avec ça. Alors Yuna, tu as reconnu ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors de quoi s'agit-il ? Est-ce que tu peux nous dire ?
Donc c'est la bande originale de Pogno sur la falaise. Donc oui. C'est un des, je dirais, la moitié de sa filmographie de Miyazaki, oui. Hayao Miyazaki, sorti en 2008. J'avais 2 ans, bah, je l'ai vu, j'avais 2 ans.
Ah d'accord, on en parle après, si ouais. Tu veux, je fais une petite présentation. Donc c'est le film d'animation de Miyazaki, Pogno sur la falaise. C'est un petit bisou de cinéma posé sur nos rétines enfantines. Et oui, alors c'est sorti, c'est en fait une variation sur le thème de la petite sirène. Il y a un graphisme simple, épuré, il n'y a pas d'image de synthèse. Et en fait, Miyazaki, il revenait à un registre peut-être qui rappelle Mon voisin Totoro, ses premiers films. Donc c'est l'histoire, je fais le pitch, hein, puis après voilà, tu pourras en parler davantage. C'est l'histoire de Suzuki qui a 5 ans, qui habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la mer intérieure. Un beau matin, il découvre une petite fille poisson rouge qu'il a décidé d'appeler Pogno. Et Pogno, elle est piégée dans un pot de confiture. Suzuki la sauve et décide de la garder avec lui dans un seau. Le petit garçon, il promet de la protéger, de s'occuper d'elle. Mais le père de Pogno, Fujimoto, un sorcier autrefois humain et qui vit tout au fond de la mer, la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Mais Pogno, elle est bien décidée à devenir humaine. Donc elle s'échappe pour retrouver Suzuki. Mais avant de prendre la fuite, elle répand l'élixir magique de Fujimoto, l'eau de vie dans l'océan. Le niveau de la mer s'élève et les sœurs de Ponyo, elles sont transformées en vagues gigantesques qui montent jusqu'à la maison de Suzuki sur la falaise et qui engloutissent le village. Alors ça a un côté très enfantin, mais les adultes, ils pourront trouver de quoi discuter autour des séquences de ce film sur la famille, sur la mort, sur l'écologie de ce très beau film assez touchant. Alors Yuna, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce film ? Pourquoi c'était dans ta liste ?
Déjà, c'est le premier film que j'ai vu de toute ma vie. Bon, j'avais 2 ans, donc c'est assez facile que ce soit mon premier film. Mais je n'avais jamais vu de film avant et c'est resté pendant un long temps ma période cinéma d'animation. Je n'ai jamais pu voir autre chose que du cinéma d'animation jusqu'à mes 10 ans. Et donc ce film, ça a été un peu la définition de qui j'avais envie de me représenter dans l'espace collectif, ouais, pendant très longtemps, parce que c'était cette petite fille qui était entre deux milieux, entre la mer et la terre, et qui faisait des rencontres juste merveilleuses. Et le fantastique, moi, c'est toujours une manière de me toucher, parce que ça raconte tellement bien le réel que c'est juste magnifique. Et Miyazaki, est-ce qu'on a besoin de le rappeler, un écoféministe qui juste dessine les gens d'une beauté sans pareil. Ouais. Donc c'est vrai que moi, ce film, ça me touche.
Alors pourquoi tu dis écoféministe ? Ça m'intéresse, ton interprétation.
Écologie. Oui, ouais. Parce que, évidemment, la représentation de la nature et de la défense de la nature, elle est hyper importante dans tout son travail. Je pense à... pas dans Princesse Mononoke, mais celui en tout cas où il y a une histoire de sauver la vallée, etc. Mm-hmm. Il y a toujours
Nausicaa.
Oui, Nausicaa
de la vallée du vent, merci. Oui. Et puis féministe, parce que c'est un des seuls cinéastes qui n'a jamais sexualisé une femme en la dessinant et qui représente une force de l'égalité dans tous ces films. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dès l'enfance, m'a apaisée. En contraste avec d'autres représentations parfois trop proéminentes. Oui.
Et c'est vrai que la maman de Ponyo, par exemple, c'est une femme très indépendante.
Merveilleuse.
Elle conduit sa voiture à toute allure sur les routes sinueuses. Elle n'a peur de rien. C'est vrai que... Oui, je comprends mieux, effectivement. Alors, si vous avez envie de vous replonger dans l'univers de Miyazaki, avec notamment mon voisin Totoro, le château ambulant, Chihiro, tu peux peut-être en conseiller d'autres, Yuna, non ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense à Kiki la petite sorcière, qui est vraiment super. Et puis...
c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Totoro, vraiment... tellement une bonne recommandation.
C'est le meilleur. Ok, donc vous pouvez tous les retrouver sur Netflix, qui a mis à disposition de ses abonnés tous les films du studio Ghibli, qui produit ces films-là. Alors, continuons maintenant notre exploration de films fondateurs de l'enfance avec ça.
Talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek. With the wave of my hand and a well-placed bow, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never
fright, and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. To a guy in Kentucky, I'm Mr. Unlucky, and I'm known throughout England and France. And since I am dead, I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the pumpkin king with the skeleton grin would tire of his crown if they only understood he'd give it all up if he only could? Oh, there's an empty place in my bones that calls out for something unknown. The fame and praise come year after year, does nothing for these empty tears.
Alors, Eva, bien sûr, tu as reconnu, bien évidemment.
Et oui, The Nightmare Before Christmas de Tim Burton,
oui.
Ou L'étrange Noël de Monsieur Jack en français.
C'est ça.
J'ai connu d'abord la version française qui était sortie au cinéma.
Oui.
Il n'y avait pas beaucoup accès à la version originale.
Oui, parce qu'on on en parlait là tout à l'heure. C'est vrai que les VO étaient beaucoup moins répandus qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu dommage. Donc il s'agit du génialissime film écrit par Tim Burton et réalisé par Henri Selick. Oui, L'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti en 1994. Alors, Tim Burton, il ne l'a pas réalisé parce qu'il était très occupé par la réalisation de Batman, le défi. Donc, c'est une comédie musicale, un conte fantastique, poétique, sombre, drôle, enchanteur à la fois. Alors, l'histoire, elle met en scène deux mondes. Halloweenville et Noëlville, que tout sépare. Et ils sont réunis dans un mélange de noirceur et de gaieté. Le personnage principal, c'est Jack Skellington, un épouvantail squelette qui habite à Halloweenville et qui prépare chaque année la grande fête éponyme. Et ces macabres surprises qui effraient les enfants de par le monde. Mais Jack, il en a marre de cette routine annuelle. Pourtant, il excelle, mais il en a marre. Il a envie de changer. Donc, un jour, il découvre la ville lumineuse et joyeuse de Noël, où le Père Noël s'active pour une nouvelle fête à venir. Et Jack, il a alors une idée de génie malicieuse. Cette année, ce sont les monstres de la ville d'Halloween qui vont s'occuper de Noël et en particulier de distribuer les cadeaux en faisant de méchantes blagues. Le film, il a nécessité 3 ans de travail pour tourner 10 000 images une par une. Donc c'est une splendeur visuelle et conçu avec des personnages marionnettes qui adoptent des sortes de mouvements chorégraphiques assez spécifiques. Alors Jack, par exemple, il se déplace comme un funambule. Il y en a un autre qui se déplace comme un automate, un autre comme un culbuto. Et leurs tristes couleurs grises, noires, ocres les rapprochent du monde des zombies ou d'autres monstres grimaçants, absurdes et drôles finalement. Dans leurs méchantes blagues. Et il adopte aussi une esthétique gothique très chère à Tim Burton, alors, qu'on retrouve dans poussé à l'extrême cette esthétique gothique dans le splendide et très gore Sleepy Hollow, le chevalier sans tête, qui n'est pas un film d'animation mais qui est assez terrifiant. Alors Tim Burton y rejette toutes les formes des films de Disney. L'anthropomorphisme, les formes rondes, les couleurs pastel, lisses. Et pourtant, il a réussi l'exploit de faire financer ses films par les studios Disney, dont il rejetait pourtant les codes. Donc voilà, ça prouve son intelligence extrême. Alors comme dans Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent, Batman le défi, le film il est centré autour de revenants qui s'avancent masqués et qui vont perturber le monde normal des vivants. Alors c'est aussi une brillante comédie musicale sur une musique et un livret de son alter ego, Danny Elfman. Donc finalement, il réussit à faire de ce film une somptueuse danse, une danse assez macabre. C'est un film anti-mièvrerie, anti-sucre, épicé, à souhait. Et franchement, moi je m'en lasse pas. Alors un peu comme Big Fish. Donc Eva, pourquoi ce choix ?
Eh bien, parce que c'est ce film-là précisément qui m'a donné envie de faire mon métier.
Ah, ok. Alors, tu peux nous en dire plus.
Ben, j'avais pas 15 ans, je pense. Je suis allée au cinéma voir ce film-là et j'ai eu l'impression que la séance avait duré 10 minutes. Et j'étais en train d'applaudir et j'ai admiré ce film. Pourquoi ? Parce que justement, il était très différent des autres et que, pour une fois, quelque chose de triste pouvait être gai.
Ouais.
Et en fait, c'est ça qui m'a plu avant toute chose. Je pense que j'étais et je reste quelqu'un de triste, mais gay aussi, voilà, dans ma manière d'être. Et bah, les mièvreries évoquées de Disney ne me parlaient pas. J'adorais la comédie musicale. J'aimais beaucoup les films, effectivement, américains, mais c'était pas l'univers. Et quand j'ai découvert cet univers-là de Tim Burton, je me suis dit, oh, mais on a le droit. Ça veut dire qu'on peut avoir des choses contemporaines, on peut avoir des musiques merveilleuses, on peut parler de joie et de tristesse. Et c'est ça qui m'a plu vraiment et qui m'a fait entrer dans l'univers de Burton. Et on pourrait parler de Sweeney Todd, qui est encore plus horrible par rapport à Sleepy Hollow. Oui. Et en fait, voilà, ça m'a ouvert une voie artistique que je n'imaginais pas possible.
D'accord. Et ça a donné lieu à quelque chose dans ton travail après, de façon concrète ou pas ? Est-ce que ça
J'ai essayé d'être Tim Burton, mais ça, je n'ai pas réussi.
On attend de voir au BTS. Hein.
Bon, après, il n'y a jamais trop tard.
Non, j'ai toujours bon espoir. Mais voilà. Ce qui m'a plu, c'est les effets spéciaux, c'est la musique. Ouais. Bizarrement, j'ai fait du montage après. Enfin, en tout cas, j'ai accroché le milieu audiovisuel cinématographique par le montage. Et là, j'ai découvert le potentiel en réalisation.
Oui.
Et après, ben, y a des projets. Oui, quand je fais des clips, ils sont plutôt sombres.
Oui.
Quand j'écoute de la musique, elle peut être très joyeuse. J'adore la musique de film. Enfin, voilà, cette dualité m'a vraiment plu. Et me dire qu'effectivement, tout en travaillant pour Disney, puisque Burton a commencé sur Rocks et Rookies, je crois, film de mon enfance, encore plus ancien, qu'on pouvait très bien à la fois faire Rocks et Rookies et développer Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque à l'origine du film, c'est un poème de Tim Burton.
Oui. Oui, tout à fait.
Issu du livre poète La aussi, triste enfant du La triste fin de l'enfant huître.
Oui, c'est ça. Et on peut parler du côté très mélancolique aussi, presque baudelairien, moi je trouve, hein, dans certains passages, quoi. La période gothique de la littérature, enfin moi, plein de choses qui rappellent ça.
Littérature, art, Fritz Lang Métropolis. Ouais. Hein, voilà, moi j'aime beaucoup tous ces univers-là. Mmh. Et voilà. Et en 93 ou 95, quand il est sorti. On n'était pas du tout dans cet univers-là. Mmh. Peu de temps après, on commençait à fêter Halloween et donc à Nantes, ils diffusaient ce film-là en boucle parce qu'on n'avait rien d'autre autour d'Halloween.
Ouais.
Et après, c'est devenu un film très grand public.
Oui.
Et je m'y suis moins reconnue après.
Oui. Alors, et il a eu beaucoup de succès, c'est vrai. Et alors, donc, du coup, comme souvent quand les films ont beaucoup de succès, les studios américains proposent une suite ou une sequel et Tim Burton s'y refuse. Alors ça, c'est son côté un peu aussi rebelle, si on peut dire, hein, gentiment, mais quand même. Et il a dit « Pour moi, ce film est très important. J'ai fait des suites, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des reboots, j'ai fait toutes ces conneries, n'est-ce pas ? Là, je ne veux pas que ça arrive. Je me sens comme un vieil homme qui possède un petit terrain et qui ne veut pas le vendre à la grande centrale électrique qui veut s'emparer de mes terres. Quoi ? Vous pénétrez sur mes terres ? Où est mon fusil ? » Voilà. Donc, ça prouve quand même qu'il a encore un attachement à ce film.
Ben, moi, j'ai ce même attachement. C'est-à-dire que quand il est devenu grand public, je n'avais pas envie de le partager avec tout le monde. C'était mon film.
Ouais.
Et puis, quand j'ai commencé à voir beaucoup de merchandising, de sacs, de t-shirts avec tout le monde... Mais est-ce que vous en comprenez l'essence même de ce film ? C'est toujours la question que je me pose.
Oui, bien sûr, quand c'est récupéré, exploité, bien sûr, hein, ça échappe au réalisateur aussi, au concepteur même, hein, complètement. Vous êtes toujours à l'écoute de Film et moi sur Jet FM 91.2 et nous sommes toujours en compagnie de Yuna Flock et d'Eva Osmani. Poursuivons notre exploration des choix de nos invités après ça.
Ils sont sous les ponts d'Amsterdam, sur un bateau mouche hollandaise, nous les éclopés de la baisse, nous les mamzelles, nous les madames, les maladroites et les niaises, les distraites et les abusées. On a fait, ne vous en déplaise, la croisière des nanas avortées, des nanas avortées. C'est pas romantique le Vaporetto. Après la clinique, Amsterdam sur eau, tulipes et vélo, je m'en souviendrai. En voyant passer les vélos, on a parlé de la pilule, de nos amours au fil de l'eau, de nos enfants, de nos ovules. On a ri, on a dégoisé, sans avoir peur du ridicule, sur un bateau trop avoisé, baladant des nanas avortées, des nanas avortées.
Alors, Yuna, est-ce que tu as reconnu ?
Bien sûr, c'est les nanas avortées, la chanson assez phare de L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda.
Agnès Varda, et oui, et donc on vient d'entendre Valérie Mérès, la comédienne, chanter dans ce film d'Agnès Varda. Alors c'est une chanson qui est d'actualité, hein, à l'heure où on célèbre les 50 ans de la loi Veil, et qui a permis aux femmes en 1975 de recourir légalement à l'interruption volontaire de grossesse. Le film est sorti en 1976, mais l'histoire débute en 1962, et il retrace l'histoire de Pauline, interprétée donc par Valérie Mérès, éclatante d'énergie et de naturel. Pauline, elle est lycéenne en terminale. Elle se rapproche de Suzanne, qui est femme au foyer, qui élève deux enfants, qu'elle a eu avec un amoureux de photographe déjà marié. Suzanne, elle est interprétée par la vibrante, épansive et trop méconnue Thérèse Lyotard. Suzanne, elle est triste parce qu'elle est à nouveau enceinte. Elle ne veut pas mettre son photographe dans l'embarras. Elle sait qu'il ne quittera jamais sa femme et ils ont pas mal de problèmes financiers. Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir 100 ans. Alors qu'elle en a 22. Pauline, qui tombe en amitié avec Suzanne, s'arrange pour financer son avortement. Alors Pauline, elle quitte sa famille, elle devient chanteuse et elle se fait appeler Pomme. Suzanne et Pomme se perdent de vue. Elles se retrouvent 10 ans plus tard, au moment du procès de Bobigny, celui de Marie-Claire, accusée d'avortement. Avortement qui était considéré à l'époque comme un crime et passible d'emprisonnement. Marie-Claire, elle est défendue par Gisèle Halimi, qui fait une apparition dans le film, dans son propre rôle. Et d'ailleurs, elle réclame que le procès ne se tienne pas à huis clos. Elle demande de laisser entrer les femmes. Et ça résonne terriblement aujourd'hui avec la décision de Gisèle Pellicot de demander, de ne pas demander de huis clos, ce qui a permis d'obtenir une couverture médiatique retentissante pour faire peut-être bouger les lignes sur le sujet aujourd'hui du viol conjugal. Donc Suzanne, elle continue au fil des ans un trafic postal avec Pomme. Et ce trafic postal, échange de cartes postales, scelle une amitié profonde. Pomme, elle tombe en amour pendant ce temps avec un Iranien, elle le suit dans son pays. Suzanne travaille dans un planning familial. En France, elle a envie de bousculer les choses malgré l'aliénation des femmes qui l'agacent parfois. Alors chacune à leur façon, Pomme et Suzanne, elles redéfinissent la famille, la maternité, l'amour. Elles apprennent aussi à résister au chantage de l'amour pour ne pas être prises au piège de la domesticité, et c'est d'une folle modernité. Et la réussite du film, il provient aussi du fait que Agnès Varda, elle ne plaque pas le discours politique sur le récit. Mais ce discours politique, elle le fait éclore par l'existence des personnages, par leurs émotions, leur intimité, le cours accidenté de leur vie, des années qui passent. Et il y a les dernières images aussi qui sont consacrées aux enfants et aux filles qui devront un jour reprendre la lutte au point où leurs mères l'ont menée. Et ça souligne l'espoir d'une continuité. Ça, c'est assez bouleversant. Il faut aussi le voir pour ces sacrés punchlines qui sont finalement pas si datées. Alors par exemple, le père de Pomme dit « Pour les filles qui ne font pas d'études, il n'y a que deux options, le mariage ou la prostitution. » Et Pomme répond « C'est un peu pareil, non ?» Alors Yuna, Toi qui es née bien longtemps après cette époque de lutte et de revendication, à une époque où les femmes ont obtenu nombre de droits dans le domaine du travail, la vie professionnelle, voilà, divorce, contraception, IVG, mariage pour toutes. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à cette question et à ce film ?
Alors déjà, c'est un film que j'ai vu là, très récemment, il y a quelques mois. Et Varda, ça a toujours été un repère de cinéma pour moi dans toute mon enfance. J'ai vécu à 7. Elle a beaucoup filmé, beaucoup vécu. Et donc, j'ai grandi avec beaucoup de films de Varda. Et c'était un peu un des derniers films que je n'avais pas vu. Et ça a été assez drôle parce qu'il a résonné en moi très fort, à la fois dans cette modernité dont tu parlais, et surtout dans l'impression actuelle que j'ai d'être en permanente lutte et d'être un peu en rage féministe. Et donc, c'était assez beau, en fait, de me dire que ce film fait, il y a quelques années maintenant, était tellement en accord avec ce que j'avais là tout de suite dans la poitrine. Et puis, c'était juste merveilleux parce que c'était un mélange entre de la chanson et le milieu de la comédie musicale que j'apprécie tellement aussi par Jacques Demy, bien sûr. Et puis cette chose politique qui est toujours sur la table et toujours à aborder. Donc c'était vraiment une découverte qui était incroyable et qui aujourd'hui, je pense, a défini en partie ma vision du cinéma.
Ah là là, la puissance du cinéma, incroyable. Toujours. Bah oui, parce que ça crée... je trouve ce film, c'est un film intergénérationnel, c'est ça qui est intéressant. C'est la magie du cinéma, c'est tisser un lien, tisser un fil entre les générations pour continuer à cultiver une mémoire et puis continuer à lutter pour des droits. Hein, donc ça, c'est vraiment la magie du cinéma. Donc merci Yuna de nous permettre de reparler à nouveau de ce film. Et vous êtes toujours à l'écoute de Film et moi sur Jet FM 91.2 et nous sommes toujours en compagnie d'Eva Osmani et de Yuna Flock qui partagent avec nous leurs émois de cinéma. Poursuivons notre exploration de leurs choix et partons dans un tout autre univers avec ça. Alors Eva, est-ce que tu vois de quel film il s'agit ? Bien sûr, on est dans l'ambiance là.
C'est Massoud l'Afghan de Christophe de Ponfilly.
Oui, alors ce n'est pas la bande originale du film, hein, parce que le film, il n'y a pas de musique réellement, mais c'était vraiment pour nous mettre dans l'ambiance. Alors c'est l'incontournable documentaire de Christophe de Ponfilly qu'il a réalisé en 1998 et qui a permis de faire découvrir au public cette figure devenue aujourd'hui iconique de la résistance afghane, résistance à l'occupation russe et aux talibans. Donc cette figure, c'est le commandant Massoud. Christophe de Ponfilly, alors pour expliquer un petit peu qui il était, il a obtenu le prix Albert Londres de journalisme donc en 1985, qui récompense les meilleurs documentaires pour les combattants de l'insolence. Il avait tissé avec la région une relation très intime. Il connaissait très bien le commandant Massoud. Il avait suivi pendant 20 ans de baroud sillonner le pays depuis 1981, alors qu'il était jeune reporter et qu'il couvrait sur le terrain un conflit très peu médiatisé à l'époque. Alors revoir ce film aujourd'hui, c'est assez vertigineux. Pourquoi ? Parce que finalement, il convoque des fantômes. Celui du commandant Massoud, assassiné par Al-Qaïda en 2001, peu de temps avant les attentats du 11 septembre, et de Christophe de Ponfilly, qui s'est donné la mort en 2006. Et les doutes qu'il exprimait à l'époque face à l'évolution du pays paraissent rétrospectivement assez prémonitoires. Il a cette citation qu'il résume très bien. « Pour être honnête, je ne suis pas venu en Afghanistan seulement pour les Afghans, mais aussi pour fuir l'arrogance du monde auquel j'appartiens, aux technologies si avancées, mais aux manières d'être si dégradées, trop d'égoïsme, de course au profit et de petits pouvoirs. » On peut dire qu'aujourd'hui, ce point de vue reste cruellement d'actualité. Alors Eva, pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Alors, je vais le dire tout de suite, j'ai une double culture. Je suis née en Afghanistan et ce qui fait que j'ai découvert mon pays pour l'avoir fui dès le début de la guerre, mais je l'ai toujours découvert par des images d'actualité. Et ce documentaire que j'ai découvert à l'école m'a montré mon pays autrement que par des images horribles. Et la démarche de Christophe de Pamphili, tu le disais, il l'évoque. Pourquoi je filme ? Qu'est-ce que je filme ? Quel est l'intérêt ? C'est un documentaire, mais c'est un voyage initiatique. C'est une réflexion sur le monde. J'ai rencontré plusieurs fois Christophe de Pamphili parce que j'avais envie de travailler avec lui pour monter des documentaires et réfléchir au monde. En tout cas, ce que moi, le cinéma, il m'a apporté, c'est qu'on peut réfléchir le monde à travers une histoire, à travers des instants de vie. Et c'est ce que ce film, Massoud l'Afghan, représente. C'est-à-dire qu'il est allé plus d'une dizaine de fois en 20 ans en Afghanistan. Et c'est effectivement... le film Massoud l'Afghan est la suite de tous ces voyages. Et donc, ça n'est pas simplement une rencontre qu'il a faite comme ça. C'est la manière dont il a mûri sa réflexion sur ce pays et aussi sur son travail de reporter, de documentariste. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que ça n'est pas... Il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas d'enquête. Il y a une personne qui se retrouve face à une autre personne et c'est ce double portrait qui est mené, effectivement, comme tu le disais. Et pourtant, tout ça, ça parle du monde réel, mais avec avec de la poésie. Et c'est ce que j'aime aussi dans le travail de Christophe de Pamphili, une des phrases que je cite souvent à mes étudiants qui en ont déjà eu le cours récemment, voilà, c'est la subjectivité comme ultime recours. C'est souvent ce que de Pamphili dit, c'est que puisque nous ne pouvons pas Si nous ne pouvons pas être objectifs, alors soyons totalement subjectifs. Oui, le réel est ce qu'il est, mais de toute façon, comme le dit Godard, le cinéma, c'est 24 mensonges par seconde. Eh bien, puisque c'est du mensonge, je vais vous donner mon point de vue à moi. Et finalement, il est un guide dans son univers. Et ce guide, moi, m'a permis de découvrir en tout cas mon pays autrement. Et je dirais même au-delà de mon pays, une autre manière de voir les choses. Loin du journalisme et proche du documentaire. On voit rarement un homme de guerre, enfin un militaire, réciter de la poésie. Oui. Et il a réussi à capter ces moments-là, effectivement, où Massoud s'isole, réfléchit. Alors après, il y a une culture qui est une culture de la poésie, déjà en Afghanistan, qui est très très présente. Mais c'est pas un film conventionnel, c'est un film qui m'a apporté, en tout cas quand j'ai commencé ma formation, moi je voulais être Tim Burton, je le disais tout à l'heure, eh bien j'ai découvert le documentaire et là j'ai compris qu'on avait finalement plus à proposer dans les notions de mise en scène en documentaire, notamment du côté du montage, quand on monte, parce qu'on peut travailler ce réel et mine de rien, ben, on y donne toujours notre point de vue et c'est pour ça que faut savoir se poser les bonnes questions, faut savoir ce qu'on a envie de dire et pas se défausser d'une certaine manière.
À partir du moment où on fait un choix, de toute façon, on n'est pas objectif, forcément.
Exactement.
Ah ouais, c'est ça.
En tout cas, voilà, c'est un film qui m'a apporté que le réel, on le voit de plein de manières différentes, mais qu'un documentariste peut nous aider à apercevoir un petit bout de réel, en tout cas.
Eh bien, allez le voir, essayez de le voir. Il est dans toutes les médiathèques. N'hésitez pas.
Musique.
Le cinéma, c'est aussi la possibilité d'embrasser de multiples métiers. Pas forcément visibles pour les spectateurs, mais indispensables pour le faire vivre. Et pour y accéder, des formations existent, en particulier des BTS audiovisuels. Dans la région, c'est le lycée Léonard de Vinci à Montaigu qui propose cette formation. Cette formation, elle propose 5 options. Métier de l'image, métier du son, métier du montage et de la post-production, gestion de la production et technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Eva, tu es enseignante dans ce lycée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu enseignes dans, je crois, l'option montage et post-production ?
Moi, je travaille, effectivement, j'enseigne le montage et la post-production. Tout BTS, en fait, se divise en deux enseignements, la théorie et la pratique. Donc, en pratique, il y a effectivement les 5 options que tu as citées qui donneront eux-mêmes sur d'autres multiples. Enfin, il y a plein de métiers derrière toutes ces options-là. Et après, il y a la partie théorie où j'enseigne aussi la culture audiovisuelle et artistique. Donc, j'ai à la fois un volant pratique et avec des cours, effectivement, sur logiciel, sur matériel. Et cette partie théorique, on va faire plutôt de l'analyse filmique. Tout technicien doit pouvoir être autonome, on va dire, sur machine, logiciel ou autre. Mais on vient travailler avec des réalisateurs, des réalisatrices, avec des scénaristes. Et donc, comprendre l'enjeu artistique qu'un film va demander, eh bien, il faut que le technicien puisse répondre à cette problématique. Le réalisateur peut avoir une idée, mais qu'elle ne soit pas possible techniquement. Alors, le technicien proposera une solution pour donner la même possibilité. Donc voilà, c'est une formation courte en 2 ans, dans laquelle on a des périodes de cours pratiques et théoriques, mais on a aussi des films de fin d'études, on a des périodes de stage, il y a des intervenants professionnels qui viennent. L'idée étant de former une classe de 40, ils sont 8 par option, on a cette chance exceptionnelle d'avoir 8 étudiants par option.
C'est un vrai accompagnement presque individuel. Quoi.
Ah oui, oui. Ouais. Bah, Yuna nous en parlera parce qu'effectivement, elle est...
Je prends point de vue après.
à peine.
Et en tout cas, pour nous enseignants, on est quasiment 2 enseignants par option. Donc, ça nous permet d'avoir un accompagnement. On n'est pas loin du compagnonnage, en tout cas, sur ce que chaque étudiant peut faire, à la fois en connaissances théoriques et à la fois en mise en œuvre pratique.
Ouais. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la façon dont ils valident leur diplôme. Le projet de fin d'année à plusieurs pour valider leur diplôme. Alors, je trouve ça assez génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ils doivent présenter, c'est ça ?
Nos métiers nous amènent à un travail d'équipe. Oui. Et donc, même à l'examen, il y a un travail d'équipe. Alors, on les prépare dès la première année, je dirais, avec des projets. En fait, à Montaigu, on a une pédagogie de projet. Donc, on cherche plein de projets différents pour qu'ils apprennent tout de suite dans des conditions quasi réelles. Et ils arrivent en fin de deuxième année avec une période de 6 semaines. Ils vont être tous répartis avec tirage au sort et tout ça. Hein. Ce n'est pas forcément évident.
Donc, ce n'est pas eux qui choisissent leur partenaire.
Ils ne choisissent pas leur partenaire.
Comme dans la vraie vie, en fait.
Ils ne choisissent pas leur sujet. Okay. Et donc...
Sujet imposé.
Sujet imposé, préparé par des enseignants, accompagnés de réalisateurs ou de réalisatrices qui seront présents pour les étudiants. D'accord. Et ils vont travailler 6 semaines dans les conditions réelles, chacun dans leur domaine. Donc la production va bien sûr préparer, finaliser. L'image va autant faire la lumière que le cadre, que la préparation de multicaméra, parce qu'on en fait aussi. Le monteur, le sondier va à la fois faire la prise de son.
Tu dis sondier,
c'est ça? Ouais, alors ça, c'est une autre mauvaise manière de dire ingé son.
Ça fait un peu sondeur, je ne sais pas.
Il y a sondard, autrement, on a nos petits noms.
Oui,
petits noms,
bien sûr, c'est jargon.
Ils vont faire autant la prise de son que le mixage, et puis le monteur il va s'occuper de faire le montage mais aussi la réalisation des multicaméras en direct.
Et il y a un temps limité, j'imagine, pour cette production?
6 semaines.
Non, mais pour la durée de la production.
13 minutes. On fait en général des films de 13 minutes et un multicaméra.
D'accord. On peut les voir sur le site, j'imagine.
Exactement.
Du lycée. Voilà. Si vous allez sur le site du lycée de Montaigu, donc Léonard de Vinci, vous pourrez trouver quelques-uns de ces films de fin d'année.
On a la chaîne YouTube. On essaye de montrer un petit peu pour donner envie aux étudiants de venir. On est en plein dans la phase d'orientation avec les ouvertures de Parcoursup et les portes ouvertes. Venez nous rencontrer ou regarder nos sites internet.
Bien sûr. Allez vous renseigner sur cette formation. Alors Yuna, maintenant on aimerait bien avoir ton point de vue en tant qu'étudiante de première année au BTS audiovisuel au lycée Léonard de Vinci de Montaigu. Pourquoi tu as fait ce choix d'études?
Déjà Parcoursup, que de bons souvenirs de mentionner ça, merci Eva. c'est vrai que le BTS, ça a été le parfait entre la technique évidemment et un lien avec le cinéma qui était hyper important pour moi. Et donc c'était génial aussi de se retrouver dans un milieu très divers avec des profils très différents, et je peux témoigner maintenant que j'y suis, à la fois du côté des profs mais des élèves, on vient tous d'horizons assez éloignés même géographiquement, et oui, donc c'est vraiment très rafraîchissant, et surtout on apprend beaucoup, et c'est une espèce de concentration, un petit ouragan d'apprentissage. On ressort de là au bout d'une semaine, c'est très ébouriffant.
Ouais, rincé.
Oui, très rincé, surtout entre les projets, entre un petit journal TV type télévisé Noël, puis un concert la semaine d'avant, multicaméra, projet à monter, bande d'annonce. Enfin, là, je parle que pour mon cas en montage, mais plus tous les projets personnels qui s'organisent plus ou moins dans le dos des profs, avec beaucoup de matériel, heureusement, et un cadre idéal pour travailler. La moitié de notre emploi du temps, l'autonomie, et on en profite beaucoup.
Ah oui,
heureusement.
Dans le bon sens.
Oui, bien sûr. On monte pas mal de projets entre nous, comme ça, mais surtout pour expérimenter, pour nous trifouiller un peu les logiciels, savoir comment ça marche. Puis pour les images, sortir tout le matériel qu'ils peuvent expérimenter. Et, bon, c'est les plus proches de notre option, donc j'y pense à eux, mais toutes les options, c'est au même niveau.
On peut continuer après, non? Est-ce qu'on peut continuer après le BTS?
On peut bien sûr. Alors, il y a des licences professionnelles. On peut demander des équivalences pour retourner à la fac. Maintenant, l'avantage du BTS, c'est de pouvoir pratiquer, de faire des rencontres pendant les stages et donc de créer des opportunités de travail après. Maintenant, par rapport au système LMD européen, effectivement, un BTS, c'est en 2 ans. Donc, l'idée de certains étudiants complètent avec l'idée d'aller un peu plus loin, effectivement, avec une licence. Mais bon, quand on a goûté au stage, quand on a goûté à la pratique, peu d'élèves...
Continuent, d'accord.
Certains continuent, mais après, ils ont tout de suite la possibilité de travailler, de gagner leur vie et de gagner en autonomie financière, notamment.
Les écoles de cinéma, après, c'est quelque chose qui me tenterait potentiellement. Après, à voir et puis au cours des rencontres.
Tu reviendras nous en parler à ce moment-là.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Alors, merci à vous pour ces précieux témoignages. Et longue vie au BTS audiovisuel du lycée public Léonard de Vinci de Montaigu. Et maintenant, tournons-nous vers l'agenda cinéma local. Vous avez encore un choix très large, quelles que soient vos envies de cinéma dans les semaines à venir. Et en voici une petite sélection. Il y aura le Festival du cinéma palestinien du 29 janvier au 9 février, avec l'ouverture du festival le 29 janvier au cinéma Le Concorde et la projection du documentaire Réminiscence et des projections dans plusieurs cinémas du département. Vous pouvez retrouver la riche programmation de ce fort utile festival sur le site de l'association France-Palestine Solidarité de Nantes, l'AFPS. Au cinématographe, une belle rétrospective des films du génial documentariste Frédéric Wiseman vous attend, avec plusieurs projections en février et en mars. Par exemple, le génial Public Housing, le dimanche 16 février à 16h30, où Wiseman a posé sa caméra pendant plusieurs mois dans un quartier populaire de Chicago. Aux 14 ans, vous pourrez suivre les aventures de Maïn à Téhéran, qui, à 70 ans, tombe amoureuse d'un chauffeur de taxi dans « Mon gâteau préféré », réalisé par Mariam Mokadam et Betash Sanaya. Vous pourrez vous plonger dans les souvenirs de Joe et de son enfance au moment des troubles qui ont secoué l'Irlande du Nord entre 1960 et 1998, grâce au poignant documentaire d'Alessandra Celestia, documentaire britannique « The Flats ». Vous pourrez aussi retrouver Adrienne Brody dans le film oscarisable « The Brutalist » de Brady Corbet. Vous pourrez aussi partir en road trip à bicyclette dans le film du même nom de Mathias Mlekuz à partir du 26 février. Et plein d'autres riches programmations dans les cinémas de notre département. Et les poussières d'images posées sur vos rétines continueront à vous élever en beauté, en interrogation à un émoi divers. Merci à vous, Eva et Yuna, d'avoir participé à Filmez-moi. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Ça fut trop
beau. Merci, Nathalie.
Donc peut-être à très bientôt.
Avec plaisir.
À très bientôt alors. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la fin de l'hiver pour un prochain Filmez-moi. Et d'ici là, restez curieux et gourmands de cinéma en tout genre.
C'était Filmez-moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.